Interview BO par Benoît Bazerico.
Pablo Picot, vous venez d'écrire la musique pour Sirocco et le Royaume des Courants d'Air, le premier film en solo de Benoît Chilleux qui vient de sortir le 13 décembre dernier. Et Pablo Picot, vous êtes un peu le compositeur spécialiste, on peut dire, du film d'animation. Vous avez déjà entendu en 2015 dans Adama de Simon Roubi, en 2018 avec Un homme est mort de Olivier Cossu, et encore L'extraordinaire voyage de Marona en 2020 avec Anka Damian à la réalisation. Un film d'animation, c'est des enjeux très spécifiques, c'est du temps long souvent. Aussi, chaque film d'animation a ses propres spécificités. Pour Sirocco et le Royaume des Courants d'Air, quels étaient un peu les préparatifs que ce film nécessitait particulièrement par rapport aux trois autres longs métrages d'animation sur lesquels vous avez travaillé?
Les films d'animation sont très demandeurs de musique. Ils se fabriquent sur le temps long, donc c'est un compagnonnage... long avec le réalisateur, avec les réalisateurs. Et pour Sirocco, la spécificité, il y avait plusieurs spécificités. D'abord, c'était un film avec beaucoup de musique. Le réalisateur Benoît Chilleux construit ses films autour de la musique et il en avait mis beaucoup, beaucoup de musique témoin. Et par ailleurs, c'est un film dans un univers complètement onirique, complètement imaginaire, donc baigné par la musique. Et un univers où règne en maître le vent, voilà, parce que Sirocco, un des personnages principaux du film, est une sorte de sorcier qui gouverne le vent, donc le vent est omniprésent. Alors le vent, c'est plus quelque chose qui appartient au domaine du sonore, mais il fallait le faire exister aussi d'une manière symbolique avec la musique. Et enfin, c'était un défi d'autant plus grand qu'il y a toute une partie vocale, car un autre des personnages principaux du film, c'est Selma, le personnage de Selma, qui est une chanteuse d'opéra. Et donc, il y avait une scène d'opéra à construire. Et ce n'est pas tous les jours qu'on vous demande de composer une scène d'opéra dans un film. Et évidemment, il fallait que cette scène d'opéra soit... comme cet univers onirique et imaginaire, jamais entendu, jamais vu. Et il fallait construire évidemment avant les images. Donc voilà, c'était toutes les spécificités du film.
On reviendra sur cet aspect vocal, on reviendra sur le vent. Pour un film d'animation, contrairement à un film d'image réelle, où le compositeur peut découvrir des images et donc être inspiré éventuellement par les sons des images qu'il voit, ou encore par le casting, le corps de la chanteuse en quelque sorte, là, vos premières images étaient des images fixes?
Oui, il y avait quelques images fixes, mais il y avait surtout ce qu'on appelle une animatique, c'est-à-dire le storyboard filmé, tout simplement, du film. Et Benoît est un réalisateur extrêmement doué, extrêmement précis, qui fait des animatiques incroyables, d'une précision folle, donc il donne une idée assez précise du film. Et donc c'était les premières informations que j'avais, c'était ça. Plutôt une impulsion, on va dire, visuelle. Quelque part, l'inspiration... pour la construction des thèmes de l'univers, elle est venue autant donc, de la construction du film que de l'imaginaire, de toutes les histoires que je me suis raconté moi dans ma tête pour on va dire raconter cette histoire.
Voilà. Parce que pour un film comme ça où vous découvrez des animatiques, le compositeur peut se faire son propre film qui parfois correspond pas forcément avec le film que le réalisateur a en tête. Comment la correspondance, l'accord peut se faire?
Bon, d'un point de vue très basique, très technique et très classique en fait, Benoît utilise beaucoup de musique temporaire, de musique témoin. Donc il y avait déjà cette indication d'un film quelque part à grand spectacle, hein, d'un film d'aventure. Et donc il y avait l'indication de la musique orchestrale. Donc il y avait la palette orchestrale était quelque part quelque chose qui était donné. Ensuite, je dirais que sur ce qu'on se raconte en tant que musicien, je crois que Benoît m'a vraiment laissé carte blanche. Il n'était pas tant attaché que ça à ces musiques temporaires. Plus sur l'aspect aventure orchestrale, on va dire une certaine forme de musique un peu grand public. Enfin, sur l'aspect imaginaire, ce que raconte la musique, ça, le sens, la narration propre à la musique, il m'a laissé vraiment carte blanche, je dirais. Et donc moi, j'ai pu y apporter toute une... donc à la fois ce sens de l'aventure, cette dimension orchestrale spectaculaire et ses grandes envolées, mais aussi, je pense, de la mélancolie, des choses que j'aime beaucoup développer, moi, dans les films.
Thank you.
pour la dimension orchestrale, pour cette dimension même lyrique. C'est très dynamique, donc il y a de l'action, on va dire, il y a une trajectoire rythmique en quelque sorte. Vous êtes adapté à un rythme d'un montage préétabli ou alors ils ont monté leurs animatiques en fonction d'une musique?
Ça dépend un peu des scènes. Il y a des séquences avec des séquences lentes, on va dire, où là, le montage de Benoît s'appuie sur la musique. Donc soit sur les musiques temporaires, soit sur les musiques des thèmes que j'avais précomposés, pas forcément à l'image, et que je lui avais livré, qui correspondaient à l'humeur de la scène et sur lesquelles il a pu articuler sa mise en scène. Pour les scènes rythmiques, on va dire plus dynamiques et donc plus rythmiques, plus rapides, là c'est l'image, on va dire, qui conduit un peu le discours musical qui est plus lead, voilà. Comment dire, les musiques temporaires donnaient quelques informations, mais j'étais assez libre de choisir mes tempi, mes rendez-vous, voilà.
C'est l'histoire de Juliette et Carmen, deux sœurs, qui se retrouvent transportées dans un livre qu'ils aiment bien lire, Le Royaume des Courants d'Air. Donc c'est un peu le passage dans une autre dimension. J'imagine aussi qu'il y a une partie de la musique qui était de représenter ce passage en fait du monde réel au monde imaginaire.
Ouais, il y a tout espèce de un peu comme un phénomène un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Hein. C'est pas le trou du lapin là, c'est une sorte de on rentre à travers une marelle magique dans un univers, l'univers d'un livre en fait. J'ai joué vraiment avec les codes classiques du tourbillon, de quelque chose comme ça, de très enlevé et très très magique, très et un petit peu comment dire, un peu spectaculaire, voilà, c'était ça.
Et vous parlez de cette mélancolie, est-ce que c'était justement l'idée de représenter une certaine tristesse chez les deux sœurs qui ont justement quitté leur famille, qu'ils aimeraient retrouver ?
Oui, alors la mélancolie, elle est sur plein de niveaux. Je ne veux pas divulgâcher le film, mais effectivement, cet univers parallèle dans lequel elles sont plongées, c'est le thème du deuil, de la mort aussi qui est abordé, même si ce n'est pas forcément le thème principal du film. C'est une dimension qui est abordée et je trouvais ça intéressant que la musique souligne cet aspect, pas forcément dans le pathos, mais dans une forme de... Voilà, de beauté mélancolique, enfin en tout cas j'espère, une forme de nostalgie, de mélancolie, mais pas que.
On peut penser au cinéma évidemment quand on parle d'animation, quand on parle de musique orchestrale, quand on parle même de mélancolie, et on peut penser à Miyazaki Takahata, dans le cinéma d'animation japonais de Ghibli, notamment à travers la référence à Alice au Pays des Merveilles, évidemment qui était aussi une référence pour Le Voyage de Chihiro. Est-ce que c'était une référence chez vous, et est-ce que ça faisait partie justement des musiques temporaires que le réalisateur avait placées?
Alors non, il n'y avait pas une seule musique des studios Ghibli, de Joe Hisaishi, dans les musiques temporaires. Benoît, et je pense que c'est volontaire de sa part, utilise vraiment des musiques très très connues. Enfin voilà, donc c'est des musiques tellement connues on est obligé de les mettre de côté quelque part et de s'appuyer que sur l'aspect, les aspects techniques en fait, que cette musique provoque avec l'image, quoi. Ce qui n'est pas plus mal en fait. Pour moi, la référence au cinéma japonais et à la musique de Joe Hisaishi, que j'adore, hein, qui est vraiment un immense compositeur. Enfin, j'ai pas cherché, ou en tout cas pas consciemment du tout, à copier ce style. Évidemment, film d'animation, ligne claire, avec une animation très léchée, univers comme ça, onirique, et farfelu, loufoque, musique orchestrale. Je pense que les gens peuvent faire des analogies, mais ce n'était pas une volonté du tout de ma part.
Alors vous êtes aussi un mélodiste. Il y a un thème qui est décliné régulièrement sous différentes instrumentations. Est-ce que vous lui affublez un rôle précis lié à un personnage ? quel est votre rapport à la mélodie justement dans un film ?
La mélodie, c'est pas facile, c'est pas évident. Je pense pour n'importe quel compositeur, et d'ailleurs c'était drôle parce que quand je travaillais sur le film, je suis allé voir le documentaire sur Ennio Morricone, où il avoue qu'il déteste faire des mélodies. Bon, je pense qu'il y a un peu de coquetterie là-dedans, mais d'un point de vue strictement technique, musicalement, on peut le comprendre, parce que là, il n'y a que 12 notes. Les mélodies, il y en a eu des tonnes de faites, et c'est très difficile de trouver sa voix. Je me suis quand même attelé à la tâche. En fait, ce qui compte quand on développe une mélodie, ou des mélodies, parce qu'en réalité, il y a plusieurs thèmes, c'est de savoir les faire, de savoir les développer, savoir les faire évoluer, et de ne pas forcément les attacher à un personnage ou à une situation en particulier, mais qu'elles irriguent le film en fait, de manière souterraine, qu'elles se retrouvent sur plusieurs personnages, sur des situations différentes. Et de cette manière, en fait, elles vont créer un discours parallèle qui peut être plus intéressant que si on les attachait à un personnage ou à un autre. Mais j'aime bien, après, qu'on leur trouve un placement un peu surprenant, en fait, qui va peut-être à l'encontre de ce qu'on pensait à la base.
Alors, comme toute bonne musique de film, il y a donc cet aspect mélodique. On retient quelque chose, en tout cas, en termes de mélodie et aussi des timbres, le choix des instruments. Et ça va dans ce film avec un aspect climatique. Vous avez joué avec l'orage. Est-ce que cet aspect climatique, vous l'avez inventé de toutes pièces ou vous avez joué avec un design sonore que l'on vous a envoyé par exemple ?
Moi j'écoute beaucoup le sound design, les ambiances, les bruitages. C'est à force de faire de composer pour le cinéma d'animation, on est très attentif à ça parce que dans les faits en fait quand on travaille sur un film d'animation, on est face à une page blanche d'un point de vue sonore. Le film n'émet pas de son. En tout cas les sons qui sont mis dessus sont mis de manière artificielle et volontaire par le réalisateur. Et donc les sons donnent des informations très précises, il faut vraiment y prêter attention. Et ça c'était quelque chose de très clair pour Benoît pour ce film. Et donc quand il a commencé à travailler avec son sound designer qui s'appelle Gurval Koigalas, qui est vraiment un très grand, un artisan du son très très doué et qui a fait un travail extraordinaire sur le film, et ben, il nous a mis en contact et tout simplement moi j'ai écouté. Et quand on fait de la musique, en fait, la musique, c'est l'art de l'écoute. Et quand on fait de la musique pour un film, ben, on écoute ce qui se passe. On écoute les voix des comédiens qui nous apportent de l'énergie. On écoute le son, on écoute le sound design, on y prête attention, on essaye de travailler avec, en fait, de ne pas se manger. Ou alors, si on a quelque chose à dire qui peut aller à l'encontre d'un son, qui peut se superposer, ben, on en parle. Et j'avoue que le travail a été d'une harmonie assez parfaite avec Gurval et avec Benoît.
Le choix des instruments, donc la flûte paraissait évident pour le vent, il y a aussi des sonorités cristallines.
La flûte est dans tous ses états, hein, du piccolo à la flûte basse, elle est très très présente, c'est un instrument que j'adore, mais pas que, il y a aussi tous les instruments, on va dire, de l'orchestre symphonique, évidemment les cuivres aussi pour la puissance du vent, la puissance de l'orage, toutes les couleurs que peut faire mettre l'orchestre, quoi, l'orchestration, et puis oui, des sonorités cristallines. Des sonorités qui se fondent un peu avec le sound design, qui font une passerelle un peu entre le sound design et la couleur orchestrale que j'ai obtenue à partir de synthétiseurs ou de effectivement de cristal, de choses comme ça un peu frottées que j'ai traitées en sample. Voilà, tout ça c'est pour essayer de, comment dire, parce que le son orchestral peut faire un peu plaquer Hein, la sonorité un peu orchestrale qui peut avoir un aspect classique peut faire un peu plaquer des fois sur les films. Donc il faut toujours essayer dans la production, à la fois dans la manière dont j'ai produit ce score, en fait, la manière dont j'ai enregistré les musiciens à l'orchestre. J'ai fait en sorte de pouvoir avoir des grandes marges de manœuvre au mix pour pouvoir mixer ça au mieux et vraiment avoir des plans qui ne soient pas forcément des plans toujours naturels, mais qui, j'espère, en tout cas, rentrent en osmose avec le film.
Alors, vous avez évoqué la présence vocale, notamment cette cantatrice Selma dans le film. Et même pour ce travail vocal, il y a également un travail sonore, c'est-à-dire que cette voix est traitée comme une respiration. Comment ça a été travaillé, cette musique de respiration, justement ? Il y a aussi une berceuse dans le film.
Alors la berceuse et l'opéra, c'est le même thème. Hein. C'est vraiment une mélodie qui est propre à la scène de l'opéra. Et donc à la berceuse, un rapport à l'enfance, du coup, à une forme de mélancolie aussi. C'est un des thèmes un peu mélancoliques du film. Là, tout simplement, c'était le travail avec une chanteuse que j'ai découvert un peu par hasard sur Instagram à l'époque où je cherchais vraiment une voix singulière pour le personnage de Selma. J'ai eu la chance de faire appel à Célia Kameni, qui est vraiment une très très grande artiste, très très grande chanteuse. Et je savais que par sa technicité de musicienne de jazz, cette souplesse justement de la voix, cette précision, parce que les chanteuses de jazz ne sont pas uniquement des chanteuses, ce sont des instruments vraiment, enfin elles ont un instrument qu'elles traitent de manière très précise. Et en fait, j'avais vu un live d'elle à la Philharmonie sur Arte, où elle faisait une reprise de Stevie Wonder avec un pianiste que j'adore qui s'appelle Bruno Ruder. Et j'ai contacté Bruno pour qu'il me donne son numéro, et voilà, on s'est rencontrés. Elle est venue en studio et là on a enregistré beaucoup de choses, hein. On a fait une journée énorme, d'ailleurs elle a été héroïque, Célia, sur cette journée, parce que on a fait ça sur une journée. Elle a enregistré beaucoup de choses, beaucoup de respirations, beaucoup de notes, on a fait beaucoup de ce qu'on appelle des re-re, tout simplement, on a superposé les couches de voix. Et on a fait très attention, oui, à aussi enregistrer des inspirations, des expirations, des petites choses comme ça pour donner du grain. Et vraiment d'aller du grave du très grave au très aigu, du très fort à la berceuse.
Intervenue uniquement sur votre partition, ou alors elle avait un modèle qui était une maquette, un brouillon de la musique avec des sonorités digitales que vous avez après donné à Selma, que vous avez donné ensuite à Célia.
Alors oui, moi j'écris, je suis très maniaque dans mes partitions, donc tout est extrêmement écrit, très, très précisément. Mais comme il y avait l'enjeu d'un air d'opéra dans un monde qui n'existe pas, un monde onirique, on n'avait pas de langue en fait, et on n'avait pas de mots à mettre. J'ai réussi à faire bricoler, on va dire, des maquettes. Évidemment, j'avais un thème à proposer qui était sur partition, mais à bricoler des maquettes à base de plein de samples de voix différents pour donner un peu cette idée, justement, d'une langue venue d'ailleurs. Et je savais qu'en faisant appel à une chanteuse de jazz, et en l'occurrence à Célia, qu'elle aurait cette faculté, justement, de s'emparer des notes et d'y apposer des sonorités, une langue en fait qui n'existe pas, qui est en fait le propre du scat dans le jazz, hein. Si on se réfère, mettons, aux Aristochats, ce qui n'a rien à voir, mais le choubidouois, ce genre de choses, ou Livre de la Jungle, ben, c'est ça en fait, c'est improvisé de manière vocale sans qu'il y ait le signifiant des mots, en fait. Et ça c'est très fort quand c'est bien fait, et voilà, et Célia l'a fait admirablement.
Et vous dites qu'elle est venue au studio, c'était votre propre studio, vous avez été à l'Alhambra à Rochefort, le studio d'Éric Debègue. Comment s'est passé l'enregistrement ?
Alors l'enregistrement s'est fait sur plusieurs lieux, mais la production, tout ce qui était voix et soliste, globalement, je l'ai enregistré à l'Obsidienne, qui est un studio à Paris, qui est le studio dans lequel je mixe toutes mes musiques, avec Rémi Barbeau, incroyable ingénieur du son que je recommande à tous les collègues compositeurs qui aimeraient travailler avec lui. Et on a fait quelques parties aussi à la scène musicale, notamment les percussions et des batteries, avec Nicolas Montazo, qui est un formidable percussionniste, qui a un stock de percussions incroyable, et aussi des chœurs. Il y a aussi des chœurs qui viennent apporter leur soutien à l'orchestre, avec le chœur Microcosmos, qui est venu à la scène musicale. Et puis ensuite, toutes les parties orchestrales, on les a faites effectivement à l'Alhambra à Rochefort, qui est un studio aussi formidable. Et on a travaillé avec une régie, en gros, de musiciens de l'orchestre de Bordeaux, en fait, de l'Opéra de Bordeaux, enfin de l'Orchestre National de Bordeaux, et des orchestres alentours, donc avec des gens vraiment, vraiment compétents, qui ont beaucoup de métiers d'orchestre, et surtout qui avaient envie d'enregistrer cette musique. Et donc voilà, on a fait les cordes, les bois, les cuivres à Rochefort, mais séparément, pour avoir des marges de manœuvre, ces fameuses marges de manœuvre au mix.
Donc il y a eu les différents lieux d'enregistrement. Alors faire une partition comme ça, on imagine qu'évidemment ça a un coût. Est-ce que tout cela a été budgété, comment dire, dès le départ? Vous saviez que vous auriez ce confort d'avoir un orchestre, d'avoir cette partition ample et lyrique? J'imagine que ça doit s'anticiper, parce que évidemment ce besoin musical implique un coût. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, une aide SACEM qui a permis d'aider ce financement?
Oui, en fait, on a eu le budget musique, comme c'était une musique, une commande qui sortait vraiment de l'ordinaire, à la fois par la quantité de musique, je crois qu'il y a 45 à 50 minutes de musique originale, un air d'opéra, de l'orchestre, des chœurs, c'est vraiment la totale, hein, c'est presque hollywoodien. Et le budget qui était prévu à l'origine n'était pas malheureusement suffisant, en fait, pour couvrir tous ces besoins. Donc on a dû vraiment trouver des solutions pour faire appel à la fois à des acteurs privés, des éditeurs de musique qui sont Crystal et 22D Musique, et que je salue vraiment au passage, qui ont fait un travail formidable, effectivement à la SACEM et au CNC, qui je crois ont tous deux soutenu la musique de ce film, et je les en remercie beaucoup.
Et 22D Musique, c'est donc un éditeur, et le rôle de l'éditeur est très souvent donc de sortir la BO. Et donc la BO est déjà sortie en digital, mais il y a aussi un projet de vinyle, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. Oui, il y a une souscription qui a été faite pour un vinyle. La BO est sortie en même temps que le film, donc mercredi dernier, mercredi 13 décembre, si je ne dis pas de bêtises, sur toutes les plateformes. Et j'accorde beaucoup de soins aux BO que je sors. Donc j'espère qu'elle touchera les gens, mais on a fait vraiment aussi un travail de remix, de réédition, en fait, des thèmes, et pour vraiment avoir quelque chose, un objet sonore qui puisse s'écouter tout simplement en dehors du film et prolonger l'expérience du spectateur en dehors de la salle. Et oui, effectivement, la fonction des éditeurs, c'est de sortir la musique, et là en l'occurrence c'est 22D qui sort la musique. Et il y a un projet de vinyle, et j'en suis très heureux, parce que ce sont des magnifiques objets, et puis c'est une manière d'écouter la musique un peu différente. Je suis sûr que ça pourra bien marcher avec ce film et avec cette musique.
Alors pour vous présenter, au début je vous ai catégorisé spécialiste de films d'animation, je ne sais pas si c'est une étiquette, voilà, que vous appréciez particulièrement, sachant que vous avez aussi fait évidemment d'autres films que de l'animation, notamment le très réussi Jeunesse Sauvage. Quel est votre regard sur ce genre d'étiquette? Peut-être que aussi on vous appelle là-dessus parce que vous avez fait déjà des films d'animation, ça vous enferme un peu?
En fait, les films d'animation, c'est génial. C'est vraiment un travail incroyable pour un champ de création, mais incroyable pour un compositeur. Et je suis très heureux, mais vraiment extrêmement heureux d'être tombé là-dedans, parce que c'était pas du tout un choix à la base. Effectivement, je suis un peu étiqueté, un peu catalogué. Pour moi, c'est pas tant un souci. En effet, j'aimerais beaucoup plus travailler pour des films qu'on appelle à tort de fiction, puisque l'animation aussi c'est la fiction des films en prise de vue réelle. Mais je travaille aussi pas mal pour du documentaire, donc ça fait aussi une autre, on va dire, une autre manière de créer de la musique. Un autre rapport à la narration et à l'image. Ce problème qui n'en est pas un d'être, on va dire, étiqueté, catalogué dans l'animation, quelque part, je le partage aussi avec les producteurs et avec les réalisateurs de films d'animation, qui font des films d'animation, évidemment, c'est indéniable, mais qui font d'abord du cinéma, qui sont pour moi avant tout des grands metteurs en scène. Je ne me plains pas du tout d'être catalogué là-dedans, mais je suis solidaire de mes camarades réalisateurs et producteurs qui espèrent, on va dire, hisser le cinéma d'animation qui est pourtant déjà très très haut dans les festivals, dans les récompenses, partout.
Alors Sirocco, prix du public d'Annecy, donc il y a des prix.
Oui, il y a des prix, évidemment, il a eu des prix partout, il a même eu un prix en Corée du Sud, enfin deux prix en Corée du Sud, dont un prix pour la meilleure musique. Les films d'animation rayonnent d'une manière assez incroyable, ils portent en eux quelque chose d'universel, quelque chose qui ne se périme pas, quelque chose qui reste et qui dure dans le temps, et pour commencer à avoir un petit peu de bouteille dans ce secteur, je peux en témoigner avec des films comme Adama, qui était sorti en 2015 et qui a toujours une vie, en fait, qui est toujours vue. Et je suis toujours surpris de croiser des jeunes gens qui ont vu Adama quand ils étaient plus jeunes. Non, pour moi, c'est une grande fierté de travailler sur ce cinéma qui est aussi, il ne faut pas l'oublier, la première porte d'entrée à la cinéphilie.
Alors là, on se rencontre aujourd'hui pour cet entretien aux ARC, qui est le festival professionnel européen du cinéma au milieu des stations de ski. Ça me permet d'élargir un peu notre discussion pour terminer sur l'industrie aujourd'hui, sur les opportunités de rencontrer des projets, de rencontrer des réalisateurs, des réalisatrices. Est-ce que cette trajectoire-là, vous trouvez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de facilités ou au contraire, il y a de plus en plus d'obstacles et de choses à surmonter ?
Je trouve qu'il y a de plus en plus d'opportunités. Ça, c'est évident. Les obstacles, elles sont plus après sur les... ils sont plus dans, comment dire, sur les budgets éventuellement qui ne suivent pas les intentions ou les ambitions, mais ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, sur les rencontres, je pense qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait de la part de la SACEM, évidemment, mais des festivals en général qui commencent un peu à s'ouvrir à ce champ de la création qu'est la musique. Et donc les éditeurs aussi ont leur part de responsabilité dans cette réussite, c'est évident. Évidemment, le Festival des Arcs, pour moi, c'est une première. Hein. J'ai un abonnement presque à vie au Festival d'Annecy, qui est mon festival de cœur, on va dire. Mais le Festival des Arcs, c'est une première et je trouve que l'accueil est formidable pour l'instant, de ce que j'en vois. Je pense qu'il y a pas mal d'opportunités, en tout cas ici, de rencontrer des gens.
Eh bien, merci Pablo, et bonne fin de festival, et puis bonne sortie, puisque c'est 13 décembre dernier, sortie de Sirocco, et je pense que les fêtes de Noël vont profiter au film.
Espérons. Merci Benoît.
Au revoir. Thank you.